Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 18, L'Armée du Soulèvement. 2 ans plus tard. En ce matin vif et bleu d'automne, le jeune Cardone exultait tandis qu'il traversait la ville basse en direction de la frontière. Depuis plusieurs mois déjà, il tannait ses parents pour avoir le droit de rejoindre l'Armée du Soulèvement, et avait enduré force sarcasmes et raclées avant d'obtenir le soupir d'acquiescement qui lui valait ce matin l'impression de devenir un homme et de marcher vers son destin. Ses parents étaient au service de la guilde du bâtiment depuis aussi loin qu'il pouvait se souvenir. Il les avait vus vieillir, les reins brisés, les mains déformées, le regard terni, les joues rougies par l'alcool, dans leur masure du quartier des ouvriers, où ils élevaient à grand-peine ses 4 petits frères et sœurs. Maintenant qu'il avait atteint l'âge de servir une guilde, à 15 ans, il n'était plus question qu'il traînât dans les rues et revînt manger leur soupe. Il lui fallait à son tour reprendre l'éreintant flambeau du labeur quotidien, jusqu'à sa mort sans doute. Toute sa jeunesse se révoltait à cette idée, et la résignation épuisée de ses parents lui faisait horreur. Il ne savait quel avenir lui réservait sa décision, mais il savait qu'il préférait mourir plutôt que de finir comme ses parents. Il avait emporté dans un baluchon ce qu'il possédait en propre. 2 chemises, 1 paire de chausses, 1 cheval de bois que son père lui avait sculpté quand il était petit, et 1 bille de pierre blanche et ronde qu'il avait au cours de son existence fait rouler plus de fois qu'il n'avait prononcé de mots. En traversant le quartier est, il remarqua que tout était plus propre, plus sain que lorsqu'il était enfant. Il se souvenait des chafouins qui le terrorisaient. L'un de ses petits frères était mort, à l'âge de 2 ans, d'une morsure de chafouin qui s'était infectée. Et puis à Eleanor était arrivée, elle avait allumé une étincelle de solidarité qui n'avait jamais brillé en ville basse. Elle avait secoué les gens par ses paroles étranges, du plus profond de leur hébétude. Elle leur avait dit que rien n'était une fatalité, qu'elle les aiderait à chasser les chafouins, qu'elle leur apprendrait comment s'en faire obéir. Et elle l'avait fait. En 2 semaines à peine, l'échafouin était éradiqué, le quartier Est était réhabilité, et une chose oubliée depuis plusieurs générations avait ressurgi, la confiance. Les bas citoyens eurent confiance en elle, et devinrent de plus en plus nombreux à écouter ses prêches. Certains se méfiaient de son origine de Hauteville, mais à la plupart d'entre eux, elle apparaissait comme une sainte, comme une martyre de la Hauteville, qui avait sacrifié sa beauté et sa richesse pour venir les sauver. Elle leur disait que les fers de l'esclavage étaient l'ignorance et la peur. Elle leur disait qu'apprendre était le seul chemin vers la liberté. Certains d'entre eux commencèrent à lui envoyer leurs enfants, puis des adultes se joignirent à ses cours. La lecture et l'écriture commençaient à se répandre comme une épidémie bienfaisante. Mais ce n'était pas elle que Cardone allait voir aujourd'hui. La lecture et l'exercice de la parole ne l'intéressaient pas, et du haut de ses 15 ans, il éprouvait une certaine condescendance de mâle envers ces choses de femme. Non, lui se rendait directement chez Maître Keller, et quand il songeait qu'il allait le rencontrer et devoir lui parler, son cœur se mettait à battre si fort qu'il avait l'impression que tout le monde l'entendait. On disait que Keller s'introduisait la nuit en Hauteville pour tuer les bourreaux. On disait qu'il connaissait des techniques de combat qui le rendaient invincible. On disait que son père était un guerrier étranger et que le courage coulait dans ses veines. On disait que les enfants qu'il aurait à Eleanor régneraient sur la cité d'Albâtre réunifiée. On murmurait qu'il levait et entraînait une armée dans des hangars secrets, l'armée du soulèvement. À la frontière, une foule animée consommait et discutait, et Cardone eut quelque mal à se faire remarquer d'une servante. Un groupe d'apostats, certains récemment marqués par le fer, échangeaient des propos vifs en langue noble, tandis que des bas citoyens de toutes origines jouaient aux cartes ou déjeunaient. « Que puis-je pour toi, petit ?» demanda la servante d'un air fatigué. « Je cherche Maître Keller, » répondit Cardone avec une certaine fierté. La servante eut un instant d'hésitation, puis elle disparut en jouant des coudes et revint quelques instants plus tard en le priant de la suivre. Elle l'emmena dans un coin plus tranquille, où Maître Keller, accompagné d'un vieil apostat à l'air malicieux, buvait une tasse de bouillon. Il était tel que Cardone l'avait imaginé, le regard franc et l'air assuré, calme et rayonnant une sorte de puissance que Cardone n'avait jamais vue sur le visage d'un bas citoyen. « Qu'y a-t-il, petit ? » demanda-t-il aimablement. Je ne sais pas si je peux parler ici, commença Cardone d'un air de conspirateur. Parle, et fais vite, car le temps est précieux. Je voudrais rejoindre votre armée, dit Cardone impétueusement. Mes parents m'ont enfin donné l'autorisation de venir à vous. Keller réprima un sourire et jaugea le jeune homme avec bienveillance. Quel âge as-tu ?
L'âge de me battre, monsieur.
C'est-à-dire 15 ans. 15 ans, c'est bien jeune pour risquer sa vie dans une entreprise hasardeuse. Cardone se sentit rougir et ne sut d'abord que répondre. C'est l'âge où l'on commence à se vendre aux guildes, monsieur.
C'est donc l'âge où l'on commence à les combattre, poursuivit Keller. As-tu suivi les enseignements d'Aelenor ?
Non, monsieur.
Alors tu commenceras par là, car nul soldat ne doit avoir la tête vide, dit Keller. Lorsque tu seras prêt, je t'accepterai.
Cardone se sentait déçu, mais prêt à tout pour continuer dans sa voie.
Mes parents m'ont chassé, dit-il après un silence. Je n'ai pas d'endroit où dormir.
Nous te trouverons un gîte, dit Keller calmement. Je te veux au cours demain matin à la première heure. En attendant, restaure-toi. Je te ferai parvenir tes instructions pour la nuit.
Cardone s'inclina un peu plus bas qu'il ne convenait et quitta la table d'un air inquiet. Keller fit appel à une servante et lui glissa quelques mots à l'oreille afin qu'elle se chargeât de lui. Puis il oublia l'événement et se retourna vers Kettel.
Chaque jour il en arrive de nouveau, dit-il. Je ne sais pas comment nous pourrons tous les former avant que nos activités inquiètent la haute ville.
Ne pense pas à ça, dit Kettel. Concentre-toi sur ta tâche et lorsque le moment viendra, nous ferons avec ce que nous aurons.
À quelques centaines de mètres de là, dans l'arrière-salle d'une boucherie, Aelenor prenait la parole face à une assistance muette et hétéroclite. Des enfants, mais aussi des prostituées, des commerçants, des vieux trop affaiblis pour servir les guildes, l'écoutaient avec passion.
Hommes et femmes de boue, qui avaient mangé le pain de l'ordure et eu la fatigue pour mère, fermez les yeux et regardez à l'intérieur. Creusez avec vos mains habituées à la fange, creusez comme des animaux affamés, car sous la boue de votre chair sommeille une perle que vous n'avez jamais vue. La même pour chacun d'entre vous, fragment d'étoiles et d'éternité, enseveli si profondément en vous-même que votre cœur l'a oublié. Regardez à l'intérieur, hommes et femmes usés, regardez et creusez, vous trouverez en vous la perle scintillante. Vos mains de cuir rugueux, qui ne caressent que les chardes, tremblent de s'unir à elles, et pourtant elles sont surgies de la même lumière, car la perle est pouvoir de transformation, et vos mains sont capables de façonner le monde. Le manteau d'usure qui vous couvre cache un corps céleste, animé de pouvoir et réceptif à toutes les forces de l'univers. Faites croître la perle jusqu'à ce qu'elle devienne astre, dissolvant les ténèbres, faites-la croître jusqu'à la révérer comme un dieu, et vous prendrez conscience de vous-même. Car l'homme n'est pas un outil, mais un créateur, et le monde qui vous submerge, qui emplit de noirceur vos poumons, n'est pas une fatalité, mais une matière flexible. Et vous êtes l'esprit qui l'a fait naître et changer, qui l'a fait advenir et disparaître, qui exerce sur ses lois inférieures l'autorité suprême de son désir et de sa volonté. Hommes et femmes, qui dépensez tant d'énergie à lutter pour survivre, cessez de survivre et vivez. Réveillez-vous de votre long cauchemar de soumission, car les secondes de votre existence sont précieuses et l'œuvre à accomplir est infinie. Rêvons ensemble d'une cité sans maître et sans esclave, où la bile infecte de l'argent ne coulerait plus. Rêvons ensemble d'une paix quotidienne, et par la force de notre rêve, faisons-le advenir à la réalité.
Aelenor se tut, et sa pierre frontale, qui illuminait la salle d'une lueur de vitrail, s'éteignit doucement. Les visages fatigués qu'elle avait devant elle étaient détendus et empreints d'une subtile énergie intérieure. Chaque jour, elle s'émerveillait des pouvoirs du Verbe sur ces êtres à qui l'on n'avait jamais parlé que le langage du mépris et du commandement. Il buvait ses paroles comme un baume, un élixir. Le Verbe les touchait directement, sans qu'elle eût besoin d'arguments, car sa sincérité était si puissante qu'elle transmettait les images sans effort. Enfin, elle osait utiliser tout son pouvoir. Elle sentait que son esprit, qu'elle avait toujours bridé, galopait aujourd'hui avec aisance et volupté, libéré de ses entraves et plus fertile que jamais. Elle se souvenait s'être jurée, par déontologie, de ne jamais faire usage du Verbe sur les bas citoyens. Et maintenant,
elle les recevait par centaines pour imprimer dans leur esprit des choses qui bouleverseraient leur vie. Et étrangement, cela ne lui faisait plus peur. Cette responsabilité ne lui semblait pas trop lourde, car elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle agissait pour leur bien, qu'elle ne les trahirait jamais, et que sa supériorité sur eux exigeait son enseignement. Elle se sentait légèrement plus fatiguée qu'à l'accoutumée, et sourit vaguement avant de reprendre son cours. L'heure était venue des savoirs plus traditionnels, la lecture, l'écriture, la géométrie et l'art des nombres, et plus avant dans la journée, pour certains d'entre eux, viendrait l'entraînement au combat. Par un accord tacite, Eleanor ne s'occupait pas de cette partie de la formation, et en laissait entièrement le soin à Keller. Il s'était entraîné lui-même pendant des mois avec Kettel, dont le temps avait été une passion de jeunesse, et qui semblait animé d'un second souffle dans son rôle de professeur. Il avait essuyé l'échec face à ce vieillard pantelant, puis il avait cherché, étudié, compris, et se battait à présent avec la grâce et la force d'un haut citoyen. Eleanor regrettait parfois qu'il n'eût pas de meilleur adversaire pour se battre, mais elle était sûre qu'il était capable d'en surpasser beaucoup. C'était comme si tout son être s'était orienté vers ce but. Devenir un guerrier semblait la chose la plus naturelle et la mieux adaptée à sa personnalité. Sa manière d'exceller à cette pratique était comme un don qu'il se découvrait, comme si lui aussi, par d'autres voies, avait libéré son esprit de ses entraves. Elle savait que ses hommes le révéraient et le suivraient quoi qu'il fît. Elle savait aussi que c'était une guerre à laquelle il se préparait et non à quelque exercice enchanté. Elle savait qu'il y aurait du sang et des morts, mais en ce moment le sang et la mort ne lui faisaient pas peur. Ils faisaient partie de l'œuvre et de la vie. Ils étaient au nombre de ces forces indépassables avec lesquelles il fallait compter pour ouvrir les chemins. Plus les difficultés étaient grandes, lui semblait-il, plus la force qu'on possédait grandissait pour les affronter. L'important était d'avancer, coûte que coûte, d'avancer, de continuer à bâtir. Était-ce leur amour qui leur insufflait ce formidable souffle, ou bien était-ce l'entremêlement de leur destin qui faisait naître cet amour? La question, au fond, n'avait pas de sens face à l'intensité de ce qu'ils vivaient et créaient autour d'eux.